Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral et où j'ai le plaisir d'accueillir pour ce nouveau passionnément vôtre une artiste peintre avec qui j'ai correspondu un petit moment sur internet sans la connaître. Il s'agit de Maliem, artiste peintre. Bonjour Maliem.
Bonjour Odile.
Alors, bienvenue bien sûr à Fréquence Mistral et on va faire connaissance durant 1h30 avec vous, à savoir votre parcours bien sûr, puisque vous avez, et aussi le style de vos peintures, vous avez vraiment une touche bien particulière, une bonne identité. Alors, la peinture pour vous, c'est apparu comment? Et d'abord, vous venez d'où?
Bonjour, je viens du Canet des Morts, dans le Var, mais je suis originaire de Port-de-Bouc, dans les Bouches-du-Rhône. La peinture vient pour moi comme une évidence puisque je suis née dans une famille d'artistes peintres. Mon grand-père, italien, arrivé en France, a fait les Beaux-Arts de Palerme. Et lorsqu'il est arrivé en France, il a peint des fresques dans des églises à Marseille et différentes toiles qu'il vendait comme ça.
Donc une famille de peintres.
Oui.
Le grand-père.
Tout à fait. Mon arrière-grand-père.
L'arrière-grand-père,
oui.
Déjà.
Oui. Il a fait les Beaux-Arts de Palerme.
Et les parents aussi?
Ma maman. Ma maman est peintre. Elle peint depuis très longtemps. Elle peint sur la porcelaine beaucoup. Elle aime ça. Et une maman très manuelle, en fait. J'ai toujours vu ma maman faire des vêtements, faire de la poterie ou peindre. Ou...
Et donc, vous avez eu envie naturellement, très tôt déjà, de peindre, de dessiner. Est-ce que c'est quelque chose de, déjà dans l'enfance?
Dans l'enfance, j'étais déjà attirée, bien sûr. Je ne veux pas dire que toute petite, j'étais déjà attirée par la peinture, comme mes petites filles, mais ça m'est venu quand même plus tard.
C'est-à-dire, vous vivez de votre art depuis combien de temps?
Depuis 5 ans à peu près.
Ah oui, c'est encore assez frais.
C'est assez frais. Quand on dit en vivre, oui, j'en vis. Je peins depuis beaucoup plus d'années que ça. Hein. Ça fait plus de 5 ans que je peins. Mais en vivre, je dirais 5 ans.
Votre premier tableau, est-ce que vous vous en rappelez? Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire votre première toile?
Je me souviens, oui, ma première toile, j'avais oublié, mais le fait que vous me posiez la question, ça me revient. En fait, j'avais peint les tournesols de Van Gogh et j'avais fait dans le champ de tournesols mes deux filles. C'est marrant, c'est une toile que j'ai offerte d'ailleurs à quelqu'un qui m'était très cher et qui l'a encore, certainement.
Et en voir, bon moi je n'ai vu que quelques-unes de vos œuvres avec ce personnage quand même bien particulier, on va en venir, vous avez commencé tout de suite par ce personnage au grand pied?
Pas du tout.
Non, quel a été donc
Je suis surtout attirée par la peinture impressionniste, très colorée, donc ça a été des paysages, ça a été un petit peu tout en fait, des marines... J'ai peint différents sujets, mais toujours avec une peinture très colorée, très impressionniste.
Donc ça, c'était il y a 5 ans?
Oui, c'était avant.
Avant, oui.
Voilà, avant. Et mon personnage, je le peins en fait depuis 2 ans. Depuis 2 ans, je peins ce personnage qui m'est venu tout à fait par hasard. On dit, oui, il n'y a pas de hasard quand on peint, parce qu'en fait, on retranscrit quelque chose que l'on a en soi. Je ne sais pas d'où me vient vraiment ce personnage. J'essaie de l'expliquer, c'est difficile. Je le peins depuis 2 ans et je l'aime de plus en plus. Je ne m'en lasse pas. Je le mets dans des scènes différentes.
Oui, on peut le voir en Marilyn Monroe.
Oui.
vous allez un peu dans tous les... Vous l'intégrez dans des tableaux célèbres?
Dernièrement, oui, c'est ce que je fais dernièrement. En fait, je l'ai mis dans diverses situations parce que ce personnage, pour moi, il voit pas le monde parce qu'il ne veut pas avoir le monde tel qu'il est aujourd'hui. Il a de très grands pieds, toujours. Alors, c'est peut-être parce qu'il ne voit pas, il a besoin de stabilité. Et puis, depuis quelque temps, je le mets dans des scènes célèbres, des toiles célèbres de la Renaissance parce que c'est une époque que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les toiles de la Renaissance. Et puis, ça m'amuse.
Donc c'est un personnage qui a non seulement des grands pieds, qui est ni féminin ni masculin.
C'est ça. Ça
et qui a toujours le nez en l'air en fait, on voit pas ses yeux.
Non. Peut-être un jour on le verra. Pour l'instant, il veut pas voir le monde tel qu'il est. Peut-être un jour quand le monde s'améliorera, il le regardera. Mais il est ni homme ni femme, ça, c'est mon coup de gueule contre l'homophobie.
Oui. Alors ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi,
oui.
Parce que on en parlera tout à l'heure dans le choix des chansons que vous avez fait. L'homophobie, c'est quelque chose qui vous révolte.
Exactement.
Et ça se traduit dans les peintures systématiquement.
Ben, ça se traduit là avec ce personnage, bien sûr, puisque il est asexué. Ça se traduit aussi, peut-être vous ne l'avez pas vu, mais j'ai fait une série aussi avec le Kama Sutra.
Oui, donc, si, si, ça c'est...
En fait, ce personnage, je le duplique dans mes toiles au besoin, mais c'est toujours le même pour moi, c'est toujours lui. Il est dupliqué, mais c'est un personnage. Et lorsque je le fais dans les scènes du Kama Sutra, c'est un Kama Sutra sexué. Pas vulgaire, je trouve ça marrant. Voilà, donc j'en ai fait une certaine série.
Donc un personnage haut en couleur, toujours, et c'est vraiment très, très coloré, très... Enfin, moi, j'adore, hein, c'est très particulier. Il n'y a que vous qui faites ce personnage, quoi, c'est votre personnage.
C'est mon personnage, d'ailleurs, il est protégé depuis quelque temps. C'est vrai que, bon, après, aujourd'hui, tout se fait en peinture, et on dit même que... Tout s'est fait, quoi, qu'il n'y a plus rien à faire. Moi, je crois que ce personnage n'existe pas. Bon, des gros pieds, il y en a eu. Asexué, tout nu, parce qu'il est souvent nu. Je ne sais pas si il est fort possible qu'il y ait quelque part dans le monde. Je ne sais pas, mais bon, voilà, c'est mon personnage, en tout cas.
Alors, il est des grands pieds, donc ancré dans la terre et le nez dans la tête dans les étoiles, puisqu'il a toujours le nez en l'air. On ne voit pas
ses yeux. C'est bien résumé, Odile.
Oui. Voilà, ça fait penser à une chanson d'Alain Souchon, quoi. donc, il est né il y a 2 ans. Une envie... Comment il est né, en fait? Est-ce qu'il y a eu un détonateur
Ben, il y a 2 ans, lorsque je suis... En fait, j'étais dans les Alpes. C'est une région que j'aime beaucoup parce qu'il y a une douceur de vivre, parce que les gens sont agréables. Et j'aime beaucoup les Alpes. Nous sommes partis dans le Var pour des raisons professionnelles, il y a 2 ans. Et lorsque je suis arrivée dans le Var, j'étais complètement dans le creux de la vague. Et j'ai un ami qui est un grand peintre portraitiste qui s'est rendu compte et qui me dit « Je viens te rendre visite pour te donner quelques conseils ». Et je pense, moi, je pars du principe que ben, la critique, souvent, est constructive. Et tous les conseils sont bons à prendre. Personne n'a la science infuse. Donc, il est venu, je l'ai accueilli à bras ouverts parce que ça me faisait grand plaisir. Et puis, il a regardé un petit peu mes peintures. On a beaucoup discuté tous les deux. Et moi, j'avais fait une grande toile. Donc, c'est celle où mon personnage est dans la baignoire. Et j'avais fait cette grande toile que j'avais mis de côté. Et puis, bon, il regarde un petit peu mes toiles, il me donne des critiques, il me casse un peu le moral, encore plus.
Ah bon?
Bon, mais c'était bon, c'était de la bonne critique, en fait. Et on déjeune, tous les deux, je lui avais fait une blanquette. Et puis, au moment de partir, on retourne un petit peu voir les peintures. Et puis, il tombe sur ce tableau et il me dit, mais c'est quoi ça? Je lui dis, ben, c'est une toile que j'ai fait, je me suis amusée. Et il me dit, mais elle est magnifique. Cette toile, elle te va bien, elle te ressemble. Tu devrais creuser ce personnage parce que vraiment, il est magnifique. Alors j'avais dans mon séjour une grosse tête de Bouddha. Il me dit, enlève ce Bouddha, on met la toile, on fait affoler, il m'enlève le boudoir, il me met la grosse toile dans mon séjour. Et puis, quand il est parti, j'ai bien réfléchi sur toutes nos discussions et puis il m'a provoqué un déclic. Et de là, ce personnage, je l'ai pris, puis j'en ai fait toutes les toiles qui ont suivi. Voilà, je l'inclus dans toutes ces scènes et vraiment, vraiment, je m'éclate avec ce personnage. Je prends un plaisir immense. Bon, après, ça plaît pas, ça c'est une affaire de goût et je suis aussi très ouverte à ce niveau-là. Je conçois très bien que ce que je fais, ça peut plaire ou ne pas plaire. Mais en tout cas, moi, j'y prends énormément de plaisir et c'est aujourd'hui, c'est ce qui est important en fait.
Et oui. Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale avec donc un morceau que vous avez choisi de Klaus Nomi. Et puis on se retrouve bien évidemment juste après. C'est Total Eclipse de Klaus Nomi.
Merci.
Mmh.
Et voilà, on revient avec Maliem, artiste peintre, qui est notre invité aujourd'hui. Et on vient d'écouter Klaus Nomi, Total Eclipse. Alors pourquoi le choix de ce chanteur ?
Le choix de ce chanteur, c'est aussi un de mes coups de gueule. C'est un chanteur que j'écoute, moi, depuis longtemps. Je l'ai découvert, je crois, fin des années 80. C'est un chanteur qui est né en 1944 et qui est mort en 83. Il avait 39 ans. En fait, c'est un chanteur d'opéra et de rock, qui était aussi artiste de cabaret, et qui avait toujours, lorsqu'il était sur scène, des tenues, des costumes fabuleux. C'est un chanteur qui a été repéré par David Bowie. Je crois qu'il a été aussi son choriste. Et moi, j'écoute, j'ai cet album depuis au moins 20 ans, ou un petit peu plus, qui s'appelle Encore. Que j'écoute tout le temps et je m'en lasse pas. Et c'est mon coup de gueule parce qu'il fait partie des premières célébrités à mourir du sida. Et il avait reçu un disque d'or quelque temps avant sa mort. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le sida, il diminue pas. Et enfin, ces dernières années, on n'en parle plus beaucoup, mais le sida, il diminue pas, il augmente pas, mais bon, il faut en tenir compte. Et il y a une augmentation des comportements sexuels à risque. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on en parle moins, mais qu'il faut parler du sida. Voilà. Et je pense que ça rejoint un petit peu aussi mon coup de gueule l'homophobie. Mmh. Ça, c'est lié un peu tout ça. Mmh. En fait, dans ma vie, j'ai eu beaucoup d'amis homosexuels et j'en ai perdu du sida. Et voilà.
Donc, c'est un combat pour lequel vous... Enfin, vous militez, si on peut militer pour ça.
Oui, voilà. Oui. Je ne peux pas dire que je milite, mais bon, si on en parle, je peux en parler.
Alors, on va revenir à la peinture.
Oui.
Bien que ce personnage est haut en couleur aussi, c'est vrai que c'était un personnage atypique, Klaus Nomi. Vous avez appris en autodidacte. Fille de d'une mère artiste et d'un grand-père artiste peintre aussi. Votre style est très différent de celui de votre mère,
oui.
qui est plutôt dans un style
plus classique.
Plus classique, de paysage. Les paysages, c'est pas quelque chose qui vous inspire ?
Pas du tout. Non, les champs de lavande, les tournesols, c'est beau. Il y a de très belles toiles qui sont classiques et qui peignent très bien les paysages. Mais c'est pas, je n'apprécie pas de le faire, donc je ne le fais pas.
Bien sûr. Alors, vous avez appris toute seule. Vous n'avez pas été chercher des techniques auprès de gens, déjà de votre mère, qui aurait pu vous initier, ou d'autres personnes, professeurs aux Beaux-Arts. Non, ça ne vous a pas inspiré.
C'est pas que ça ne m'a pas inspiré. Je n'ai pas eu l'opportunité. Et puis, j'ai appris pas mal toute seule, parce que j'ai toujours vu des peintures chez moi, déjà. J'ai vu comment on les utilisait. Et puis... toute seule, c'est bien. On fait des. Je trouve que le meilleur apprentissage, en fait, c'est quand on fait des essais soi-même et qu'on voit le résultat.
Et ces peintures acryliques ?
Je mélange.
Oui.
En général, je démarre avec de l'acrylique parce que l'avantage de l'acrylique, c'est que ça sèche vite. Et après, je bifurque avec de l'huile, des bâtons d'huile ou de l'huile en tube. Je mélange. Parfois, je colle. Parfois, je déchire. Je couds même. Ça dépend de l'humeur du moment.
Oui, c'est pas que de la peinture. Il y a aussi, du bricolage artistique.
Par période. Voilà. Ouais. Les dernières toiles, j'ai pas fait de bricolage ni de collage. En fait, j'ai eu une période quand j'ai créé le personnage dans la baignoire où j'ai collé. J'ai fait pas mal de collage parce que je collais en fait des morceaux de chemise de mon père. Il y a 2 ans, mon papa est atteint de la maladie d'Alzheimer. Et il y a 2 ans, on a dû le placer en maison de retraite. Ça a été très difficile parce qu'on n'arrivait plus à le gérer. Donc, placer quelqu'un comme ça, son père ou sa mère, c'est difficile. C'est un sentiment d'abandon. C'est une décision très dure. Mmh. Et lorsqu'on l'a placé, comme c'est quelqu'un qui aimait beaucoup s'amuser, il aimait beaucoup aller danser, il avait énormément de chemises. Donc, quand on l'a placé, j'ai pris toutes ces chemises et je les ai toutes déchirées. Et j'en ai fait des mètres de tissu. Et par la suite, toutes les toiles que j'ai faites, j'ai collé des morceaux de tissu des chemises à mon père. Et ça a été une façon un peu pour moi d'accepter la chose et en même temps de le faire un peu... de le mettre un peu...
De faire revivre.
Oui, il est mort en partie, mais ouais. Voilà, de le faire vivre.
Voilà. Avec des morceaux de chemise dans vos toiles.
Voilà. Il y a des toiles, pas mal de toiles, on les voit. Hein, c'est des morceaux de chemise à mon père, j'en ai encore. Là, ces derniers temps, j'en ai mis un petit peu moins. Non pas que mon papa soit plus là, parce que malheureusement, je dis malheureusement, parce que c'est dur de les voir dans les états où ils sont quand c'est en fin de maladie, surtout la maladie d'Alzheimer. Ces derniers jours, il est en fin de vie. Donc, j'y vais tous les jours, puisqu'il est sur Port-de-Bouc et que j'habite le Canet des Morts. Tous les matins, je descends. Je le vis mieux, j'ai accepté enfin, parce que c'est long et c'est difficile d'accepter. Voilà, donc je pense que le fait d'avoir accepté, ces derniers temps, j'ai plus collé de chemise à mon père, de morceaux de tissu sur les dernières toiles. C'est bizarre, mais c'est comme ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas expliquer parfois ce que l'on fait.
Il a eu le temps de voir ce que vous faisiez en peinture.
Alors, oui, il a vu ce que je faisais, et pas les dernières, puisque depuis un an, il ne se rend plus compte du tout. Mais non, il a pas vu les dernières toiles. Il n'a pas eu le temps de se rendre compte.
Il n'a pas pu connaître non plus le personnage qui est né il y a 2 ans.
Pas du tout, non. D'accord. Pas du tout. Pas du tout. Alors, ce personnage, c'est peut-être un mélange, hein, c'est peut-être un petit peu lui, qui ne voit plus le monde. C'est peut-être, voilà, on peut l'expliquer de diverses façons. Je cherche pas trop.
Oui, en tout cas, ce personnage, il fait partie de vous.
Oui, complètement.
Vous l'avez créé, vous l'avez adopté, et maintenant vous le faites voyager dans vos toiles.
Hein, oui.
Et il est en route, il est pas prêt de s'arrêter.
Non, pas du personnage. Tout. Peut-être qu'un jour je me lasserai. On m'a posé la question déjà. Peut-être le jour où je me lasserai ou ça m'amusera plus, je m'arrêterai, tout simplement.
Vous lui avez donné un nom à ce personnage ou...
J'y pense, on me pose aussi la question. C'est difficile parce qu'il est ni homme ni femme. Et ces derniers temps, j'y ai pensé un petit peu à lui donner un nom. Après, comme je le duplique, c'est difficile.
Oui.
Je ne sais pas. Je verrai.
Vous aviez envie de nous parler. Vous avez été dans la région, dans le département pendant quelques années.
Oui.
Et c'est là que vous avez rencontré une personne importante dans votre chemin d'artiste.
Exactement.
Assisteront dans cet atelier qui s'appelle...
Le crayon gris.
Le crayon gris.
Oui.
Alors, j'aimerais bien que vous nous présentiez cet
Volontiers.
Atelier et savoir ce qu'on peut y découvrir et en tout cas ce que vous avez appris auprès de cette personne qui s'occupe de l'atelier gris. Le crayon gris, pardon.
Le crayon gris. En fait, quand je dis que je peins depuis des années, c'est vrai, par intermittence, je peins, je m'arrête parce qu'en fait, j'arrive pas vraiment à trouver ce que je suis pas satisfaite de ce que je fais, donc j'arrête et je reprends. Il y a 5 ans, j'étais dans les environs de Sisteron et j'ai découvert dans la rue, c'est la rue de la Sonnerie, un magasin de fournitures, de beaux-arts, qui s'appelle Le Crayon Gris. Et j'y suis allée plusieurs fois et puis j'ai sympathisé avec Cécile et Francis, qui sont les propriétaires de la boutique. Mais c'est surtout et avant tout des passionnés. Ils sont toujours à l'écoute des besoins des artistes et c'est des gens vraiment extraordinaires. Et en discutant avec Cécile, j'ai eu envie, elle m'a donné envie d'aller le jeudi après-midi à son atelier. Parce que Cécile, depuis des années, tous les jeudis après-midi, elle a un atelier où il y a pas mal de monde qui va. Et c'est ouvert de 14h, elle dit toujours en rigolant, de 14h à point d'heure. Donc c'est dire si parfois l'été, ça peut durer un peu tard. L'atelier a été bougé un petit peu parce qu'il y a eu des travaux justement dans cette rue. Mais toujours là, existant. Et on arrive, on s'inscrit sur le tableau, on reste. Et puis, et ce qui est formidable, c'est que elle laisse libre cours. Elle donne beaucoup de conseils techniques, mais après, elle le laisse libre cours. C'est-à-dire que quand on va là-bas, on apprend énormément. On apprend à utiliser les produits, les peintures. Et en même temps, on fait ce qu'on a envie de faire. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc moi, elle m'a donné envie d'aller à cet atelier. J'y suis allée le jeudi. J'ai énormément appris au niveau technique. Quand je dis que je n'ai pas fait les beaux-arts, j'ai fait aucune école. Mais là, vraiment, c'est un endroit où j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris au niveau artistique et aussi surtout au niveau humain. Parce que c'est quelqu'un de très humain et qui apporte énormément à ce niveau-là. Et elle m'a redonné confiance et envie. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu lâcher les pinceaux. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que Cécile et Francis ont un fils qui s'appelle Colin. Et avec lui aussi, j'ai pas mal appris, même beaucoup. C'est un garçon adorable et surtout doté d'un sens artistique impressionnant. Après, il faut dire qu'il est tombé dedans quand il était petit. Et Colin, je l'aime. Voilà. Avec lui, je fais de la sculpture chez Frédéric Maillard, qui est dans la vallée du Jabron. D'ailleurs, il faut y aller parce qu'elle est vraiment... Frédéric Maillard, apprendre avec elle la sculpture, c'est vraiment génial. Et puis avec Colin, on est très complices. Certainement, on est certainement atteints d'une même folie. Enfin, c'est ce qu'on nous a dit plusieurs fois. Voilà. Puis Colin, c'est un artiste complet. Et d'ailleurs, il faut aller voir ses toiles qui sont dans la rue de la Sonnerie, dans la galerie de l'atelier, normalement, du crayon gris. Voilà, puis il faut aller voir Colin, il faut aller à la boutique. Et là aussi, je dis ça aussi pour les artistes, parce que quand on est artiste, on a besoin tout le temps de conseils, de connaître les nouveautés, on a toujours besoin d'avoir quelqu'un qui va nous guider, nous conseiller pour les encadrements, pour tout un tas de choses. Et enfin, moi, je pense que c'est dommage de commander par Internet ou autre, alors qu'à côté, on a vraiment une boutique où tout est complet et que si un jour ils sont plus là, ben, ça serait bien dommage. Donc, et en plus, c'est vrai que c'est un moment, moi, quand j'y vais, je repars plus. Je pose mes fesses, je papote et on n'a plus envie de partir, quoi. Mais voilà. Je voulais parler du crayon gris de Sisteron.
Je confirme, j'y suis allée une fois et très tard puisque le magasin devait fermer et c'est vrai qu'elle a, cette dame était très très accueillante et elle a vraiment pris le temps.
Ah oui.
On était comme des enfants là à voir tout ce qu'il y avait comme belles choses aussi dans le magasin et oui, c'est vrai
que c'est des commerçants comme on en trouve peu aujourd'hui mais aussi parce que c'est des passionnés.
disponible.
Cécile a fait les Beaux-Arts et de Paris, et puis c'est une grande passionnée, et elle sait transmettre, mais transmettre sans s'imposer, sans donner son style, transmettre en nous laissant nous-mêmes s'exprimer. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Voilà.
Alors, on rappelle, c'est les crayons gris. Le crayon gris, c'est à Sisteron, oui. Rue Sonnerie. Il y a certainement un site ou pas?
Il faut, en fait, il y a... Oui, le crayon gris, c'est un site internet. Il y a une page.
Donc, c'est une boutique où on peut trouver tout ce qu'il faut pour peindre, dessiner. Il y a des cartes postales, il y a des carnets, il y a plein de belles choses.
Vous ne pouvez pas vous imaginer tout ce qu'il y a.
Voilà,
il y a plein de... On trouve des choses. Moi, vraiment, pour avoir bougé et pour être allée dans d'autres endroits, hein, quand j'ai eu des besoins d'acheter, que je n'étais pas sur place, je suis allée ailleurs. Elle a un stock phénoménal. On trouve chez elle des choses qu'on ne trouve pas ailleurs, mais surtout des conseils qu'on n'a pas ailleurs. Et ça,
puis,
c'est génial.
Et puis, il y a un côté boutique et l'autre côté atelier, non ?
Il y a, y a l'atelier, mais il y a la galerie.
La galerie qui se trouve en face.
Et là, pour les fêtes de Noël, pour des cadeaux et tout,
il faut y aller.
Ah oui, il faut y aller. Vraiment, il faut y aller. Voilà, c'était mon...
Voilà.
Fallait que j'en parle, j'en avais besoin. Et je trouve que c'est... Il faut en parler, vous. Quand les gens sont formidables, il faut le dire.
Bien, Maliem.
Le français a tendance à être râleur tout le temps. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance, quand on n'est pas content, à le dire. Mais quand on est content, il faut le dire aussi.
Voilà. Donc, vous avez rencontré cette personne il y a quelques années, qui vous a bien aidé à évoluer aussi, avec donc le fils qui s'appelle Colin. Et ensuite, vous êtes partie...
Après, je suis partie au Canet des Morts. Et depuis 2 ans, je suis au Canet des Morts. Et là, c'est là où j'ai commencé à peindre mon personnage.
Et est-ce que, en tant qu'artiste indépendante, enfin, puisque vous n'êtes pas dans une école des beaux-arts, est-ce qu'on se sent pas isolé ? Est-ce que c'est, il y a des contacts avec les autres artistes ?
On se sent isolé parce que c'est vrai que lorsqu'on peint, on a toujours besoin d'avoir un avis extérieur. Comme je disais, la critique est toujours constructive dans ce cas-là. Enfin, toujours, plus ou moins, tout dépend. Mais on attend souvent les expos parce que c'est justement les expositions qui nous permettent de voir le regard des gens sur nos œuvres. Mais trouver des ateliers où il y a un échange, après c'est une question de mentalité, trouver un atelier où il y a des échanges et où on peut s'entraider, où on peut évoluer et avancer, parce que c'est ce qui fait avancer en fait. C'est comme j'avais là à l'atelier du crayon gris, c'est difficile de trouver ça ailleurs. Parce que c'est un peu le milieu artistique, selon les endroits, c'est un peu chacun pour soi.
On va y revenir tout à l'heure, on va voir un peu comment c'est. C'est aussi tout un travail entre l'artiste qui peint dans son coin et l'artiste qui expose et l'artiste qui va à la recherche aussi du public, hein, enfin de lieux pour exposer. C'est pas simple, on va voir ça tout à l'heure. Et on va écouter une seconde chanson de Klaus Nomi, Simple Man, que vous avez choisi également. On se retrouve juste après. Love.
like a thief who got caught. Oh, it's just a thing you bought. It's just another same white lie that everybody got taught.
Et voilà, c'était Klaus Nomi, Simple Man, choisi par mon invité, Maliem, artiste peintre. On va continuer, bien sûr, à faire connaissance avec son parcours, ce personnage haut en couleur et avec les grands pieds, qui n'a pas encore de nom, mais ça ne saurait tarder. Et on va voir, donc, on en est aux expositions, en fait. C'est pas simple quand on démarre en tant qu'artiste pour trouver les lieux d'exposition. Ça coûte cher. Comment on fait quand on n'est pas du métier, si on n'a pas un agent tout de suite?
Alors, les agents, moi, j'ai été contactée quelques fois, surtout depuis que j'ai fait le Gemelluc à Monaco, contactée par des agents qui proposent de s'occuper de vous pendant un an. Mais il faut payer une certaine somme d'argent. Et après, au bout, on ne sait pas, on n'est pas sûr. Et puis, il faut rester libre, je pense, parce que si on passe par un agent, après, on ne peut pas aller faire les expos que l'on souhaite. Ou on est, après, c'est selon les contrats, on peut être lié. Bon, moi, j'ai un caractère où j'aime être libre. Je veux absolument rester libre. C'est déjà ma nature. Mais en fait, moi, tous les matins, quand je me lève, pour moi, c'est un travail. Une fois que j'ai fait tout ce que j'avais à faire, que c'est l'heure du travail, je me cale à mon ordinateur et puis je passe bien 2-3 heures tous les jours à faire des recherches, à voir les expos actuelles pour prévoir celles qui se font régulièrement, une fois par an, par exemple. Si j'en vois une, je me dis, tiens, celle-là, je vais la prévoir pour l'an prochain. Et puis je postule un petit peu partout. Je postule aussi dans les galeries. Bon, j'ai des retours, hein, puisque j'ai des expos. Mais après, je veux pas... c'est pas par fierté que je dis ça. Je veux pas exposer n'importe où. Je suis sélective dans le choix de mes expositions. Et je dis toujours que c'est par respect pour mes toiles, avant tout. Je veux pas non plus courir derrière absolument les expos, quitte à exposer n'importe où, vraiment, chercher à vendre absolument, chercher... Non, je crois qu'il faut pas... Il faut pas partir de ce principe-là. Il faut y aller gentiment, tranquillement. Il faut bien aboutir les choses. Il faut que le personnage, il prenne un peu plus aussi qu'il soit un peu plus connu. Je suis pas pressée, en fait. Voilà. Alors, c'est pas que j'ai pas besoin d'argent. Je suis comme tout le monde. J'en ai besoin pour vivre. J'en vends des toiles, j'en ai vendu. Mais je trouve que c'est mieux quand on prend le temps des choses. Pour moi, vite et bien, ça va pas ensemble. Voilà. Donc, j'ai des retours. J'ai des retours parce que j'ai des expos. Là, j'ai une expo à la fin du mois, à cheval sur novembre et décembre, sur Barcelone. Oui. Une galerie de Barcelone qui m'a contactée. Et donc, j'expose 15 jours là-bas. Après, j'ai d'autres expos derrière. J'en ai en attente. Et puis les choses, elles se font petit à petit. Il ne faut pas se presser. Il ne faut pas courir derrière. Les choses, elles se font. Moi, je dis, c'est comme un puzzle. La vie, c'est ça, en fait. On a la pièce et si elle ne s'emboîte pas, il ne faut pas forcer, il faut attendre.
C'est ouais, voilà, joli.
C'est... Non, mais c'est vrai. Il faut, faut laisser le temps au temps et laisser venir les choses tranquillement. Voilà.
Et j'imagine tout d'un coup votre personnage en puzzle, ça pourrait être intéressant aussi. Bon, c'est peut-être dommage, mais
pour les enfants,
toutes les idées sont bonnes à prendre. Donc, vous exposez à Barcelone 15 jours à la fin de ce mois.
J'ai pas les dates précises. Ouais. C'est à cheval en fait sur novembre-décembre.
Donc c'est un beau lieu d'exposition. Oui. C'est important d'exposer plus loin que chez soi.
Bien sûr, c'est ce qui permet de se faire connaître.
Et puis peut-être c'est souvent difficile de nul n'est prophète dans son pays, hein. C'est
bien
souvent
sûr.
Difficile d'être reconnu par les proches et les gens du coin. C'est important de passer aussi par d'autres expositions. Donc vous passez du temps sur l'ordinateur,
oui.
En plus c'est les réseaux sociaux, c'est
oui.
aussi un moyen de se
énorme.
Faire connaître. Oui.
C'est énorme. Les réseaux sociaux. Enfin, surtout Facebook, c'est une source phénoménale de connaissances, d'échanges. Moi, je trouve que ça apporte énormément. Il faut savoir les utiliser. Il faut les utiliser à bon escient. Si c'est pour y mettre sa vie perso, je ne vois pas trop l'intérêt. Mais c'est vrai que pour pouvoir évoluer dans un travail, précisément, c'est très intéressant. Et ça apporte énormément.
C'est vrai que c'est comme ça qu'on s'est que je vous ai découvert.
Voilà.
Découvert. c'est rien qu'avec un partage, deux partages. On voit ce une de vos peintures et puis voilà, on clique j'aime et puis il y a un petit commentaire et puis de fil en aiguille,
c'est
voilà,
ça.
On en fait une émission, on se rencontre enfin.
C'est ça, c'est exactement ça.
Et c'est vrai que ça permet vraiment une facilité pour se faire connaître professionnellement.
Bien sûr. Après, il y a l'entourage aussi, parce que, lorsqu'on prépare des expositions, surtout là, par exemple, Barcelone, il faut les amener, les toiles. J'ai que les grands formats, donc voilà.
C'est quoi les grands formats, alors ?
Les grands formats, c'est, 2 mètres par... Le plus grand, je crois, 2 mètres par 1,60 m. J'adore travailler sur les grands formats. Alors, la plupart de mes toiles, ce sont de très grands formats. Après, c'est vrai que lorsqu'on expose, il faut les trimballer.
Et oui.
Voilà.
Donc, et c'est aussi, j'imagine, quand c'est plaisant de voir qu'on a un bon retour, que ce que vous faites, ça plaît. Mais après, quand on vend, c'est aussi... est-ce que ce n'est pas un pincement de
oui.
se dire « Oh, je l'avais bien, celui-là ». Vous en gardez une photo
Oui, je garde. Je garde une photo. C'est difficile... C'est difficile, c'est vrai, de voir partir les toiles, parce que bon, c'est une toile, quand on l'a fait, c'est comme un enfant, quoi, c'est une naissance. Mmh. Et pour avoir discuté une fois avec un expert qui s'appelle Monsieur Soriano, il m'avait dit, mais comment vous voulez vous faire connaître si vos toiles, elles ne sont pas diffusées un petit peu partout ? Vous ne pouvez pas vous faire connaître si vous gardez vos toiles. Je lui avais dit, mais moi, mes toiles, si je ne les vends pas, ce n'est pas grave. Je les garde.
Eh oui.
Enfin, voilà. Mais en même temps, quand on voit que ça plaît, ça fait plaisir aussi. Moi, je suis assez surprise parce que bon, je ne m'attendais pas non plus à ce que ce personnage plaise autant. Et quand quelqu'un... comment dire, j'évite de parler de mon art parce que c'est vrai que quand on parle d'une passion et de ce qu'on aime, on saoule facilement les gens. Et en plus, il y a beaucoup d'artistes égocentriques et je ne voudrais surtout pas être égocentrique, c'est quelque chose que j'ai en horreur. Donc j'évite de parler de mon art quand quelqu'un vient me voir ou voilà. Et quand, Quand par exemple, je vois que ce que je fais plaît, alors là, c'est vraiment extraordinaire. Si on me pose des questions, si j'en parle, comme là aujourd'hui, je parle rarement de moi. Donc c'est...
Là, c'est l'occasion
en
quand
même.
En même
temps,
ça,
voilà,
c'est dommage.
Ça, ça me fait une thérapie. Je parle peu de moi, en fait. Mais ça fait toujours plaisir. Alors, c'est vrai que ça fait peine de voir partir une toile et en même temps, voir que la personne... apprécie, est heureuse d'avoir la toile, ça fait plaisir aussi. Il faut pas.
On vous dit pas, ben vous viendrez la voir à la maison. Parce qu'il y a des gens comme ça, des artistes qui vendent à des personnes où ils savent qu'ils pourront un jour retourner voir.
C'est vrai. Mais moi, il m'est arrivé de vendre, de dire à condition que quand je fais telle ou telle expo, tu me la reprêtes pour l'exposer.
Ah oui, voilà. Ça peut se faire aussi,
oui, bien
ça.
Sûr. Mm-hmm.
Alors, fixer les premiers prix aussi, vendre sa première toile, ça doit être quelque chose émotionnellement.
Bien sûr. Comment, ben, ça fait plaisir.
Ouais.
Déjà, c'est une reconnaissance, en fait, avant le gain. C'est vrai, avant le côté financier, ben, c'est ce que je disais à l'instant, hein, c'est vendre une toile, ça veut dire que ça a plu. Et quelque part, c'est ça la récompense première à mes yeux. C'est pour ça que je dis toujours... moi, je fais ce personnage, je m'éclate en le faisant. Si je ne m'éclate pas, demain, je m'arrête. C'est ce que j'ai fait ces dernières années. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à trouver mon style, donc je me suis arrêtée à chaque fois que ça n'allait plus. Parce que pour moi, ça doit rester un plaisir avant tout. Et donc, un plaisir, quand on voit qu'il est partagé, mais c'est encore plus de plaisir, quoi. C'est vraiment... c'est énorme.
Vous êtes mariée, vous avez deux enfants.
Oui.
Deux filles. Elles, vous les avez initiées aussi à la peinture. Elles sont jeunes?
Non. Mes filles, elles ont 30 et 36 ans.
Oui. Elles ont été touchées par le côté artistique aussi.
Oui, mais d'ailleurs, je suis en relation sans arrêt avec mes filles. Ma mère me dit, mais c'est pas possible. T'es toujours. En fait, on a un réseau qui s'appelle WhatsApp. Et quoi qu'on fasse dans la journée, eh ben, on le met sur le WhatsApp. Comme ça, en temps réel, on est au courant de ce que fait chacune. Voilà. Et moi, lorsque je peins à l'évolution d'un tableau, je leur envoie chaque fois. J'ai leur avis, en fait. Et ça m'aide énormément. Ça me porte, forcément. Elles me poussent énormément et elles aiment ce que je fais. Je crois que quelque part, elles sont fières.
Est-ce que vous vous censurez vous-même? Est-ce qu'il y a des choses où vous refusez des sujets que vous refusez de traiter en peinture ou...
Non.
Non.
Non, puisque j'ai traité le Kama Sutra, mais après, c'est dans la façon de le traiter. Je pense que je ne l'ai pas traité vulgairement. Non, je ne me censure pas du tout.
Vous faites donc des grandes toiles. On a vu les plus petites, c'est 100 sur 100, non?
Non, 80, 60, 80 par 60, 80, 80.
Est-ce qu'on vend plus facilement une petite toile qu'une grande toile?
Ben, c'est-à-dire que tout dépend de où on expose et le public que l'on a. Parce qu'une grande toile, forcément, il faut une grande maison. Quoique maintenant, on peut mettre des grandes toiles, même quand ce n'est pas très grand, je trouve ça très joli. Avant, on se l'interdisait, mais bon. Non, je ne vends pas plus... Oh, c'est pareil. Je pense que c'est pareil. Après, la cote, ben, c'est la vente qu'il a fait, en fait. Hein. C'est en fonction des ventes que l'on fait, la cote se fait. Mais bon, moi, j'avais eu encore M. Soriano qui m'avait appelé et qui est un expert et qui m'avait donné une cote. Donc, je m'en suis servie au départ. Et puis après, ben, c'est fonction... fonction des ventes. Mais bon, je ne dis pas que on brade pas son art, parce que quelque part, on ne le respecte plus si on brade. Mais je pense qu'il faut donner aussi accès aux gens qui aiment l'art. Si je vois demain quelqu'un qui aime vraiment ce que je fais, qui n'a vraiment pas les moyens et qui... je ferai quelque chose vraiment de... pour qu'il puisse accéder à une œuvre, quoi.
Comment ça se calcule, le prix d'un tableau? C'est pas en fonction des heures qu'on y a passé?
Non, on peut pas savoir.
Ou du matériel? C'est vous, c'est un expert qui vous a aidé à faire vos prix au départ?
Oui, c'est un expert qui m'a dit vos œuvres, elles valent le temps. Par exemple, il m'a dit le 100 par 100, 1200 euros. Mmh. Après, c'est fonction quand on vend. Plus on vend cher, plus ça monte la cote, en fait.
Parce que j'ai appris donc qu'un artiste, même s'il fait des choses magnifiques, s'il n'a pas exposé, ça n'a pas de valeur.
Oui, c'est vrai qu'il faut exposer.
Comment ça se fait, ça?
Ben, parce que, en fait, il faut exposer, c'est ce qui fait le CV de l'artiste, c'est très important. Plus que les ventes, je dirais. Mm-hmm. Donc l'artiste doit se faire un CV. Plus que de, puis après les ventes, elles se font toutes seules derrière, hein, mais le CV, il est très important. Un artiste qui n'a jamais exposé, qui n'a jamais fait voir ses œuvres et qui, d'un coup, bon, il y en a qui le font, hein. Mm-hmm. Y en a qui surestiment leur travail. Après, il ne faut pas tomber dans l'excès, il ne faut pas exagérer, c'est comme partout. Moi, j'ai vu des toiles qui sont vendues, enfin, qui se sont mises à prix dans des expositions parce que les gens se disaient, les artistes se disaient, bon, ici, c'est haut de gamme, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, je mets, maintenant, il faut rester correct. Mm-hmm. Je pense qu'il faut rester cohérent quand même.
Le prix le plus haut d'une de vos toiles, c'est quoi ?
10 000 euros.
10 000 euros. Mmh. Mmh. Et vous avez exposé, alors vous avez commencé, est-ce que vous avez commencé par La Bonne Fontaine à Fort-Calquier ? On en parlait tout à l'heure.
Ah oui, j'avais exposé oui. avec Colin. C'était dans le cadre d'un festival. C'était un festival hors cadre, d'ailleurs. Il y a 3 ans, je crois. Je suis 4 ans, je ne sais plus. Mmh. L'espace Bonnefontaine à Fort-Calquier.
Qui maintenant est un lieu où on n'expose plus.
Nous, quand on a exposé déjà, ce n'était pas un lieu d'exposition, en fait, puisque c'est une salle de théâtre. Et puis, on a exposé en haut à la mezzanine qui est en rentrant. Le seul souci, c'est que les plafonds font au moins 4 mètres de haut et qu'il a été difficile d'exposer les toiles. Et là, encore une fois, heureusement qu'on avait quelqu'un d'expert, c'est Cécile du Crayon Gris, qui avait commandé des baguettes assez longues pour pouvoir exposer, sinon ça n'aurait pas été possible.
Le lieu d'exposition est important. Oui. Je pense à Saint-Paul-de-Vence. Est-ce que c'est un lieu où vous êtes allé vous frotter ?
Je vais m'y promener. Je vais à la Fondation Maëc, ça oui, ouais. J'adore. Mais
vous avez, enfin, je ne sais pas non. Comment ça se passe. Est-ce que c'est très cher pour aller exposer parce qu'on paye son.
En fait, voilà, ce qui se passe, c'est que soit on va vous contacter, et vous allez avoir des agents qui vous contactent, soit des galeries, si votre travail plaît, bien sûr. Ils vont vous proposer de nous mettre dans les galeries. Et après, vous avez des personnes aussi qui organisent des salons. Alors, ces personnes le louent un grand espace. Elles le louent des stands. Et après, elles proposent à des artistes d'exposer. Des stands de à peu près 9 mètres carrés en moyenne. Et là, ça va vous coûter 2 ou 3 000 euros. Mais vous n'avez pas la certitude de vendre. Donc, pour moi, ces gens-là, ce sont des gens qui se font du fric sur le dos des artistes. Mmh. Parce que quand le salon est terminé, eux, ben, en fonction du nombre d'artistes, ils vont empocher, par exemple, sur 100 artistes, fois 3 000 euros. Et si l'artiste n'a rien vendu, ben voilà. Il y en a pas mal de salons comme ça. Donc, il faut faire attention quand même, il faut rester vigilant. C'est là où je disais tout à l'heure, il faut prendre le temps. Parce que si on. Voilà, le problème, c'est que. L'artiste aime faire son art, l'artiste va aimer peindre ou faire sa sculpture, mais après le plus difficile pour un artiste c'est de se vendre et de vendre ses œuvres et aussi de faire sa communication. Donc il y en a qui profitent de ça.
Pour l'instant c'est vous qui démarchez.
Oui.
Oui. Vous avez fait l'expérience d'un agent ou plusieurs, vous disiez tout à l'heure.
Non, on m'a contacté mais j'ai dit non à chaque fois.
Ah d'accord.
Ouais, je dis que je veux rester libre.
Et donc, si on fait le résumé de tout ce que vous avez à proposer dans une exposition, combien de toiles vous avez ? Il vous faut un grenier, un garage, toute la maison est réservée pour vos toiles ?
Non, des toiles, à vrai dire. Mais j'en ai dans toute la maison. Et c'est là où je voulais quand même aussi profiter. Je suis là au micro aujourd'hui. Pour mettre un peu à faire l'honneur et pour remercier mon mari qui mon mari est quelqu'un de qui aime les choses assez classiques et forcément il a du mal à comprendre souvent mes toiles, bien que maintenant bon, à force de les voir et d'assister à des expositions, à force de discuter, et il arrive mieux à comprendre
et accepter.
Ce que je fais et accepter. Mais c'est vrai que j'ai des toiles dans toute la maison. C'est vrai que quand j'ai besoin d'exposer ou de faire quelque chose qui est un lien avec ce que je fais, il est toujours là, présent. par exemple, voilà, pour me faire des caisses si les toiles doivent partir loin, pour ficeler une toile qui sort d'une malle pour amener une exposition. Il est toujours là, présent.
Vrai soutien.
C'est un soutien. C'est vrai que c'est un soutien. Et j'ai cette chance-là. C'est-à-dire que même s'il ne comprend pas, il n'est jamais allé contre. Il ne m'a jamais fait une réflexion en me disant des choses du style « ce que tu fais » ou « c'est pas beau » ou « c'est... » Non, non, non. Il le dit. Il dit qu'il ne comprend pas, mais que voilà, il n'est pas... Il est content de voir que je m'épanouis dans ce que je fais, en fait.
Enfin, un bon mari.
Ouais. Bon, parce que il a ses défauts, j'ai les mêmes. Entre autres, voilà, pour ça, c'est vrai que bon, il dit toujours que je suis dans mon monde. C'est vrai que certainement, je suis dans mon monde parce que je peux peindre à tout moment. Si une idée me vient la nuit, je vais me lever la nuit, je vais peindre la nuit. Donc, je reconnais que vivre avec un artiste, ça peut être dérangeant quand même, parce que c'est vrai qu'on est dans notre monde. Voilà, et ça, il faut le comprendre.
C'est important d'être soutenu par son compagnon, son mari, et d'avoir quelqu'un qui accepte de voir sa femme s'épanouir, parce que c'est quand même aussi important, j'imagine. Oui. Enfin, je pense dans le couple, et rares sont les malheureusement rares sont les hommes qui acceptent de voir leur femme s'épanouir dans un domaine qui les dépasse ou qui ne comprennent pas forcément. Et ça, c'est
non, il est toujours là présent, et même dans les vernissages, il est toujours là. Voilà.
Donc voilà, moi je le connais pas, mais je le félicite et et je trouve que c'est important, important de rester un soutien.
C'est important. Voilà. L'entourage proche est très important, en fait. Voilà. Au même titre que mes filles et voilà, mes petites filles aussi, parce que moi j'ai ma petite fille de 7 ans. Quand elle n'est pas venue depuis un moment à la maison, elle arrive, elle va direct à l'atelier et elle me dit qu'est-ce que ça fait Yaya de nouveau ?
C'est bien, voilà. C'est sympa, elle s'intéresse. Voilà.
Elle me peigne, mes petites filles. Quand elles viennent, je leur mets des grands t-shirts. S'il fait beau, je les mets dehors avec une grande feuille de papier et puis pleine de peinture et puis je les laisse s'épanouir, quoi, en fait.
Donc les expositions, c'est quand même quelque chose de... C'est comme les artistes qui vont chanter, on va dire.
C'est le plus difficile.
Il faut tout préparer, charger la voiture ou le camion. Je ne sais pas si vous êtes équipé pour ça. Mais c'est quand même aussi beaucoup de travail,
c'est du travail,
préparation, de patience aussi. Quand on expose, ce n'est pas toujours évident. Enfin, suivant les lieux, j'imagine, quand les gens viennent discuter, c'est intéressant. C'est sûr que si vos œuvres plaisent, c'est encore mieux parce que, voilà, il y a un vrai échange. Mais les artistes moins chanceux, c'est long d'exposer plusieurs jours s'il n'y a pas d'échange avec le public.
C'est ce qui est le plus difficile, en fait. C'est pour ça que je dis qu'il faut sélectionner quand même les lieux. Enfin, quand on fait quelque chose de particulier, sauf quand on fait une peinture qui est assez classique, ça passe plus. Mais quand on fait une peinture assez particulière, moi, je lui ai exposé des endroits où on m'a dit, mais... Le ciel rouge, ça n'existe pas. Voilà. Donc, comme je reprends une expression que dit Cécile tout le temps, qui expose s'expose. Et oui. Donc forcément, quand on expose, on s'expose à la critique. Bon, parfois constructive, parfois pas. Mm-hmm. Et voilà. Puis après, il y a des gens qui comprennent l'art, d'autres qui le comprennent pas. Et bon, après, faut accepter, c'est tout. Mm-hmm. Mais quand on fait des toiles. Quand on a un style particulier, on ne peut pas exposer n'importe où. Il faut être sélectif quand même.
Oui.
Oui.
Et le choix des peintures que vous allez exposer, il faut forcément se limiter. C'est pas difficile, ça vous faites tourner les tableaux d'une exposition à l'autre.
Il faut essayer de rester dans le thème déjà. Donc moi, avec mon personnage, par exemple, si j'expose l'étoile de la Renaissance, je vais mettre que ça. Il faut éviter de mélanger. Après, il y a le fait d'avoir de grands formats. Donc forcément, quand on a de grands formats, on se limite au niveau de la quantité. Mais bon...
Maliem, on va faire encore une pause musicale.
Chouette.
Avec Elton John. Ouais. Sacrifice, comment on prononce?
Sacrifice.
Allez, on écoute Elton John.
The next song comes from an album called Sleeping with the Past. And the whole album and this song was recorded in Denmark, which is the only time I've ever recorded in Denmark, but great country. So here we go. The song is called Sacrifice.
temptation strong into the boundary of each married mind. Sweet deceit comes calling the negativity lies. Cold, cold heart are done by you. Some things look better, baby, just passing. Sensitivity builds a prison in the final act. We lose direction, no stone unturned, no tears to damn you when jealousy burns. Cold, cold heart are done by. Some things look better, baby, just passing through. There's no sacrifice, just a simple word. It's two hearts living in two separate worlds, but it's no sacrifice.
Et on retrouve Maliem sur Fréquence Mistral pour cette heure et demie de Passionnément Vôtre. Alors Elton John, Sacrifice, pourquoi ce chanteur, bien sûr, Maliem?
Alors ce chanteur, parce que c'est un chanteur qui s'est déclaré bisexuel dans les années 70. Et je trouve que c'est très courageux parce qu'en fait, c'était une époque où les coming out étaient très rares. D'autant que, du coup, il a déclenché beaucoup de réactions homophobes et même perdu quelques fans. Et donc, en 88, il déclare assumer totalement son homosexualité. Il se marie et puis il fait même appel à une mère porteuse pour avoir deux enfants. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut aller jusqu'au bout des choses et ne pas faire les choses à moitié. Le PACS en 1999, c'est vrai, a aidé à donner une notion du couple, hein, de même sexe, surtout dans le code civil. Aujourd'hui, deux hommes ou deux femmes peuvent former un couple. Pour moi, le mariage est une institution du couple. J'accepte, hein, sans aucune difficulté cette pluralité, un homme, une femme ou deux hommes ou deux femmes. Un enfant peut avoir deux pères ou deux mères. Il faut changer cette définition du parent, c'est tout. Voilà. Et je me dis, et l'amour dans tout ça, est-ce que ce n'est pas l'essentiel ?
Maliem, on va continuer à parler peinture. Mmh. Merci pour. Ben voilà, hein, c'est pas que je veux. Je recentre sur le pourquoi vous êtes là avec la peinture et on va parler de cette belle reconnaissance que vous avez. Ça fait seulement 5 ans que vous exposez et déjà vous avez été sélectionné au J'aime Luc. Alors vous allez nous dire ce que c'est puisque au courant. Voilà. Alors, le J'aime Luc.
Le J'aime Luc à Monaco, c'est le groupement des entreprises monégasques dans la lutte contre le cancer. Cette année, c'était la 6e édition. L'an dernier, j'avais aperçu un peintre que je connais qui avait participé au J'aime Luc et je m'étais dit, l'an prochain, tu postules. Donc, j'ai postulé au J'aime Luc et j'ai été sélectionnée. Voilà, c'est une manifestation qu'il passait sous la présidence d'honneur de son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre. Et bon, toutes les années, ils organisent une exposition pour découvrir des œuvres d'artistes à Monaco et récolter des fonds pour la lutte contre le cancer. Cette exposition rassemble plus d'une centaine d'artistes venus du monde entier et sensibilise le grand public au problème majeur de santé publique, bien sûr, qui est le cancer. Voilà, ces œuvres, elles sont jugées par un jury international composé de conservateurs de musées et de critiques d'art. Et elles sont exposées à l'auditorium Régnier III, à Monaco, bien sûr.
Et vous avez été sélectionnée.
J'ai été sélectionnée.
Parmi ces 100 artistes du monde entier.
Oui.
Et ça, c'est magnifique.
Ah, c'est extraordinaire. Vous avez le livre entre les mains.
Voilà, et je vous félicite vraiment.
Merci.
Le livre, Le don de l'art, J'aime Luc Art, 6e édition, Elle et lui. Concours international d'art contemporain et vous êtes à la page plus de 147 ou quelque chose comme ça et parmi enfin vraiment de très très belles peintures et ça c'est magnifique. Au bout de 5 ans seulement, vous devez faire bien des envieux.
Oui, je pense, mais bon, c'est toujours pareil, hein, je trouvais ça extraordinaire, j'ai passé un moment, mais c'est un rêve quoi, c'était génial. En plus, bon, le J'aime Luc est organisé par une agence, c'est l'agence Stratège Communication. Et donc, le commissaire, la personne donc, qui a cette agence, Laurence Gabatini, est une personne tout à fait charmante. Et également, le commissaire d'exposition, qui est lui-même artiste, un grand artiste, qui s'appelle Yvon Kergal, et qui est peintre et illustrateur, et qui réalise depuis près de 40 ans des œuvres contemporaines. Donc, il fait des portraits à l'abstrait, du figuratif. Voilà, et il est toujours. C'est quelqu'un qui utilise toujours comme fil conducteur l'encre de Chine. Mais c'est à voir, il faut aller le voir, cet artiste, sur, par exemple, sur le réseau Facebook. Vous tapez Yvon Kergal avec un K, K-E-R-G-A-L. Et c'est vraiment. Il fait des œuvres vraiment fabuleuses. Voilà, donc. Je ne sais pas s'ils m'écoutent, mais bon, j'en profite pour les remercier parce que vraiment, grâce à eux, l'exposition s'est super bien passée et ça a été vraiment une expérience pour moi extraordinaire. Bon, j'ai pas eu de prix parce qu'il y a eu des prix quand même. Hein. Il y a 5 prix qui ont été attribués. Il y a un prix du jury, il y a un prix spécial, il y a un prix du public, un prix sculpture, un prix coup de cœur, un prix théma. Bon, je m'attendais pas à avoir de prix. C'était déjà pour moi exceptionnel d'y participer, vraiment.
Alors, donc, Maliem, à l'espace Régnier III de Monaco, oui. À l'auditorium, 2500 personnes au vernissage.
Non, c'est une exposition qui a duré 15 jours. Il y avait, le soir du vernissage, 1400 personnes.
D'accord, j'ai un peu grossi le truc, presque doublé. Mais bon, 1500 personnes, 1400 personnes, c'est déjà énorme.
Ah, c'est énorme, énorme. Et en plus, Monaco, moi, je voyais cette ville parce que comme tout le monde, enfin beaucoup de gens, je suis allée m'y promener, c'est magnifique, c'est très beau, et avec mes yeux de visiteur. Mais le fait d'y avoir exposé, je me suis rendu compte que le monde économique est différent du nôtre, bien sûr. Nous, c'est difficile, Monaco, on le ressent moins, voilà. Surtout au Gemluc, toutes les nationalités étaient présentées, aussi bien artistes que visiteurs. Et voilà, le fait d'y être m'a fait faire des connaissances et que je n'aurais pas faites autrement. Et puis, c'est vrai que ça ouvre quand même des portes. C'était génial.
Alors, on va... bravo, hein, bravo pour cette exposition. Et on va parler, bien sûr, de l'Académie internationale des beaux-arts du Québec.
Oui.
Puisque c'est aussi une reconnaissance. Qu'est-ce qui vous arrive en ce moment, Maliem?
Oh, je vis un rêve. Je trouve que c'est merveilleux. Enfin, moi, je prends ça comme... c'est des cadeaux. Je m'éclate, je vis d'une passion. C'est vraiment extraordinaire. J'ai postulé à l'Académie internationale des beaux-arts du Québec. Bon, souvent on dit une académie, c'est un lieu d'éducation, mais c'est aussi une société de gens de lettres, de savants ou d'artistes, ce qui est le cas de l'Académie des beaux-arts du Québec. C'est une institution qui a été créée par Caroline et Louis Bruens. Ce sont des experts en marché d'art et ils ont créé ça pour les artistes et les amateurs d'art à des fins spécifiques de reconnaissance publique des artistes en art visuel. Voilà. Donc, ils ont une philosophie internationale. Ils acceptent les artistes du monde entier. Bon, Louis Bruens est décédé l'an dernier et c'est sa femme qui a repris le flambeau. Voilà. Donc, l'Académie, elle représente des artistes contemporains de tout genre et style, des peintres, des sculpteurs, de différents mouvements, tendances et expériences. Alors, ils ont une mission... La mission en fait de l'Académie et la priorité, c'est qu'ils ont surtout une importante base de données concernant les artistes, les galeries, les associations d'art et les amateurs. Ils diffusent quotidiennement ou mensuellement des nouvelles culturelles, des expositions, on est informé des événements, des symposiums, par des cyberlettres, par les médias sociaux ou par Facebook. Ils exposent des œuvres dans les meilleures salles, ils font un gala régulièrement, ils font des tas de choses pour les artistes. Ils ont des galeries d'art virtuel. Voilà, ils représentent en fait les artistes à l'échelle internationale et je trouve que c'est bien. Moi, j'avais postulé et ça fait partie de mon petit travail du matin. et le 17-10, j'ai reçu un courrier qui me dit « L'analyse de votre dossier a été faite et votre dossier a été accepté dans la catégorie professionnelle de la relève. » Voilà. Nous vous présentons nos félicitations et nous vous souhaitons la bienvenue au sein de l'Académie. Voilà.
Eh bien, super.
Je vous ai tout dit.
On va parler du dictionnaire aussi des artistes cotés. Qu'est-ce que c'est que ce dictionnaire des artistes cotés?
Alors, le dictionnaire des artistes cotés, il a été mis en place par Christian Soriano, qui est un expert. En fait, son aventure a démarré en 92, parce que pour la première fois dans l'histoire de l'art français, le gouvernement a décidé d'agir dans l'intérêt des professions et des métiers de l'art et des antiquités, parce qu'on allait être confronté à la concurrence européenne. Donc, il a confié à M. Soriano, fonctionnaire d'État, et expert en art et en antiquité, la mission de structurer les professions d'art et des antiquités. Il a fait sa mission et il s'est engagé auprès des artistes, des responsables d'associations, de salons ou des municipalités, à leur apporter un jour son expérience acquise lors de cette mission gouvernementale. Donc, depuis le 1er septembre 2000, en fait, il a été libéré de toute obligation administrative. Et il a mis en place ce dictionnaire. Ça a été sa première étape, cet engagement. Et il a réalisé ce dictionnaire de cotation. C'était en 2000. Et aujourd'hui, nous sommes en 2014. Mm-hmm. Donc, imaginez le nombre de dictionnaires qu'il a fait. Mm-hmm. Donc, je vais vous faire une citation que je trouve bien de sa part. En fait, il a dit « À tous ceux que les mots cotation et marché gêneraient, enfin, toutes ces personnes qui se plaignent que trop d'acheteurs ne voient pas plus loin que le bout de leur portefeuille et regardent la cotation de l'artiste avant son œuvre, je signale que je partage leur indignation. Mais force est de constater que la cotation est le vrai juge d'un marché et que celui de l'art, comme tout autre, a besoin de transparence. » Je trouve que c'est une très belle citation. Mmh. Voilà. Donc, il a fait ce dictionnaire et également, il a créé un site où, sur lequel j'y suis parmi des tas d'autres artistes. Un site qui est pour nous une vitrine et où également on est informé de pas mal de choses, qui permet également d'être sur ce dictionnaire de haute cotation. C'est un dictionnaire qui couvre tout le marché, qui diffuse les résultats des ventes aux enchères et celles réalisées dans les galeries, les foires ou les ateliers.
Et comment s'appelle ce site ?
Alors, il faut aller sur le dictionnaire des artistes cotés.
D'accord, dictionnaire des artistes cotés. Et on retrouve donc évidemment tous les artistes peintres cotés.
Oui, voilà.
Et alors, ça fait du bien à votre ego, je suppose, de faire partie, même si vous êtes modeste et que ça vous gêne un peu. Vous avez très peur de prendre la grosse tête.
Oui.
C'est pas dans votre tempérament.
Non, pas du tout.
Et alors, est-ce que vous êtes prête à affronter le succès grandissant?
Bon, après, il faut garder bien les pieds sur terre. Je fais référence à mes pieds, ouais. Mais. Vous savez, le succès, c'est difficile. Je pense que je fais de l'avant, il m'arrive des tas de belles choses, c'est magnifique, mais j'ai quand même bien les pieds sur terre. Avant d'arriver à avoir un succès énorme, c'est très difficile. Pas tout le monde y arrive. Voilà, si les choses doivent se faire, elles se feront d'elles-mêmes, la pièce du puzzle. Et puis voilà, je pense qu'il ne faut pas... C'est un milieu tellement difficile. Il ne faut pas se faire trop d'illusions, en fait. Il faut garder les pieds sur terre.
Alors, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un milieu très difficile? Quelles sont les épreuves? Dites-nous un peu si vous avez traversé des épreuves pour en arriver à cette belle reconnaissance.
Les épreuves... Oui, bien sûr qu'il y en a des épreuves. Les épreuves, elles sont que, bon, déjà... Selon les milieux, entre artistes, c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup d'artistes, c'est chacun pour soi. C'est un milieu assez quand même personnel, selon les endroits. Voilà. Parce qu'il y a un enjeu qui est toujours le même, c'est l'argent. Donc tous les artistes rêvent d'y arriver. Qu'est-ce qu'il y a de plus fabuleux sur Terre que de vivre de sa passion et de vivre bien? Quand on réussit, c'est vrai que... On peut vivre bien.
Est-ce qu'on peut avoir la reconnaissance de certains artistes et être un peu chapeauté par des grands qui disent « j'aime beaucoup ce que vous faites et j'ai envie que vous exposiez avec moi ». Ça peut arriver aussi.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Pas tout le monde a cet état d'esprit d'être chacun pour soi. Mm-hmm. Moi, je fais un peu une généralité, mais ce n'est pas une généralité.
Alors tout à l'heure, je vous demandais si vous parliez anglais, parce que il faut être prêt à aller.
Moi, je veux bien
sortir du pays. Bon, vous allez déjà Barcelone. Vous parlez espagnol.
Oui.
Et bien sûr, si vous exportez ailleurs, il faudra bien parler anglais.
Ouais. Oui. C'est pas un problème.
C'est pas un problème.
Non.
On peut encore parler avec les mains. Et puis peut-être vous aurez un interprète qui vous suivra partout.
Oui, voilà. Je vais demander à mon mari.
Ah ben voilà, il parle anglais ?
Il faudra qu'il se...
qu'il s'y mette.
Non, ben voilà, c'est... Bon, de toute façon, il n'y a rien de facile dans la vie. Et puis quand c'est trop facile, c'est moins appréciable aussi. Donc pour l'instant, je vis une passion. Tout ce qui se passe autour, ben, c'est fabuleux. Après, on verra si... ce qui va se découler. En tout cas, j'ai été resélectionnée pour le J'aime Luc de l'an prochain. Voilà, je tenais à le préciser.
Ben alors ça, c'est beau encore.
Avec le thème, cette année, le thème, c'était Adam, c'était Elle et lui. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai fait la toile Adam et Ève. Et l'an prochain, c'est Soi-même.
Soi-même.
Le thème est Soi-même. Voilà.
D'accord.
À cogiter.
Facile ou pas facile?
Non, ça va, je sais pas. On verra bien.
Et pour Adam et Ève, donc, ça a été comme une commande? Comment ça s'est passé? Puisque c'était le thème, elle et lui.
Ouais,
vous aviez déjà le tableau?
Le thème elle et lui, moi j'avais déjà en tête de faire des toiles de la Renaissance. Donc pour moi, Adam et Ève, ça s'est imposé.
D'accord.
Voilà.
Donc, travailler sur commande, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire. Ou que vous avez déjà fait, peut-être.
Oui, si on donne un thème. Oui. Travailler sur commande, ça dépend si c'est un thème. Mm-hmm. Après, sur commande, non. Parce que je pense qu'il faut rester... faut faire ce qu'on a envie de faire, en fait. Et moi, j'ai un caractère où si on m'impose quelque chose à faire, j'aurais du mal à le faire.
Ouais.
Voilà, donc... Non, après, avec un thème, oui, bien sûr, il faut qu'il y ait un thème, parce que c'est plus sympa, quand même.
Mmh. Donc, pour l'instant, il y a beaucoup d'œuvres qui sont chez vous, en attente de lieux d'exposition. vous vous débrouillez toute seule. Si vous aviez un agent qui s'occupe bien de vous, vous refuseriez ?
Je crois, oui.
Ouais.
Ouais. Non, mais, en fait, les agents, c'est toujours pareil, hein, tout dépend.
Et votre mari, il est disponible ? On va lui coller du travail, le pauvre. Il faut qu'il apprenne l'anglais, qu'il devienne votre agent.
ça fait beaucoup de choses.
Ouais.
Non, mais voilà. Après, j'ai une expo aussi en janvier, février.
Ah, ben voilà, vos projets, donc, pour les jours à venir.
Si on n'en parle pas.
C'est pas la peine de venir.
C'est pas la peine que je vienne. En fait, j'ai une exposition au Canet des Morts, à la médiathèque du Canet des Morts. Alors, le Canet des Morts, c'est un village où je vis actuellement, qui est adorable. Il y a une élue à la culture qui est vraiment... et un maire, d'ailleurs, qui sont portés sur la culture. Ils aiment beaucoup la culture. Ils sont très, très efficaces à ce niveau-là. Donc, au Canet des Morts, il y a une médiathèque qui met à disposition, en fait...
La salle,
voilà. Donc, elle propose régulièrement des expositions de peinture, de sculpture, de photographie. Il y a un atelier aussi de pratique artistique. Chaque vendredi soir, il y a des rendez-vous culturels. C'est vraiment un lieu qui bouge, où il se passe beaucoup de choses. C'est géré par un directeur qui est très efficace, hein, qui s'appelle Monsieur Belmondo. Et puis, il y a aussi le Festival du Chien Rouge. Le Festival du Chien Rouge se passe l'été. En fait, c'est un festival qui se passe toutes les soirées, avec des musiques différentes, des chanteurs différentes, des comiques. C'est vraiment... Ça fait quelques années qu'il dure déjà, ce festival. Et il commence à être très connu.
Et c'est au Canet des Morts aussi.
Oui. Donc, il se déroule chaque année de juillet-août, depuis 2011, dans le centre du Vieux Canet. Donc, dans le centre du Canet des Morts, pas au Vieux Canet.
Combien d'habitants au Canet des Morts ?
Ah, j'en sais rien.
À peu près
Oui, j'ai peur de dire une bêtise. Bon. 1200, vous n'avez pas Internet, là ?
Si, je vais regarder.
je sais plus. J'avais regardé, mais j'ai
donc,
pas retenu.
Donc, il y a un festival du Chien Rouge.
Festival du Chien Rouge.
Qui existe depuis 2011.
Ouais.
Et où on trouve des artistes, musiciens.
Voilà, pour vous donner une idée, cette année, pour l'humour, il y avait François-Xavier de Maison. Mm-hmm. Après, il y a des gros groupes de rock'n'roll, il y a du reggae, il y a du jazz. En fait, c'est assez varié pour pouvoir toucher et faire plaisir un petit peu à...
Il y a de la chanson française ?
Quelle question. Il faut les appeler et leur demander. Non, c'est super. Et l'hiver, ils font aussi ce qu'ils appellent les festivités de l'ours. Donc, c'est en fait durant toute la période de Noël, il y a des animations et des spectacles, de l'art dans les rues. Voilà, il y a plein de choses qui se passent dans le Canet des Morts.
Eh bien voilà, une bonne pub pour votre ville.
Ben il faut, je trouve que c'est important, je disais. Quand on trouve les choses bien, il faut le dire.
Donc, vous exposez à la médiathèque du Canet des Morts.
Pendant 2 mois, janvier-février.
Janvier-février.
Voilà.
Et au Festival du Chien Rouge ?
Non, le Festival du Chien Rouge, c'était pour...
Juste pour signaler que
voilà,
ça existe.
Voilà, pour le dire que voilà, ça existe tous les étés et que ça draine déjà beaucoup de monde.
Et puis, un site Maliem, un site
Alors, j'ai
pour
un site,
vous.
Mais qui est en construction. Par contre, Maliem, sur Facebook.
Voilà. C'est là où je vous ai rencontré pour la première fois. Donc, il suffit de...
Il suffit d'aller sur...
D'écrire Maliem.
Fréquence Mistral et puis dans les amis.
Voilà, Maliem, M-A-L-I-E-M. C'est votre pseudo artistique. Comment on appelle ça ?
En fait... Maliem, c'est bien de le préciser quand même. C'est que, j'ai mes filles qui s'appellent Marie-Ange, Lynn, et ma première petite fille qui s'appelle Emma. Donc, c'est la contraction des trois prénoms. Ça faisait Maliem. Bon, après, j'ai eu une autre petite fille qui s'appelle Ava, mais...
Maliem Ava, ça va faire beaucoup.
Ça faisait un peu beaucoup.
Ouais. En tout cas, le résultat est plutôt sympa.
Ben oui.
Ouais.
Et je ne sais même pas comment c'est venu. Ça fait tellement longtemps, je ne sais pas. Comment ça m'est venu de...
Est-ce que...
Le nom de Maliem.
Est-ce qu'on a le droit de savoir votre vrai prénom ?
Nadine.
Nadine, enchantée, Nadine. Eh bien, est-ce qu'on écoute encore une chanson avant de se dire au revoir, ou est-ce qu'il y a d'autres choses
non,
qui
on
sont...
on peut écouter encore une chanson. Hein,
est-ce qu'on choisit John Baez
ou... Allez, super.
Ouais. Here's to you, Nicolas and Bart. Et voilà, on retrouve Maliem après John Baez, une belle chanteuse, une chanson voilà, pour Sacco et Vanzetti. Vous êtes quelqu'un d'engagé, hein ?
Un petit peu, oui. Je me retiens. On va dire que je suis moins fougueuse.
Parce que John Baez a chanté beaucoup oui. dans les prisons, enfin, c'est une sacrée...
J'ai beaucoup d'admiration pour cette chanteuse. Américaine, parce que bon, c'est une artiste engagée et engagée à délivrer un message de paix et de liberté. Elle est contre la guerre et l'injustice. Et je trouve que, voilà, je la trouve merveilleuse. Et même aujourd'hui, quand on la voit à l'âge qu'elle a, je la trouve même, elle est belle, elle dégage quelque chose d'extraordinaire. Voilà, j'adore aussi quand elle chante Le Déserteur de Boris Vian. Mm-hmm. Elle le chante en français avec son petit accent, mais je trouve que c'est une artiste que j'aime beaucoup.
Elle est formidable.
Ah
je l'ai vue aussi. Elle était venue à Château Arnoux, à la ferme Font-Robert.
D'accord.
Et il faisait un froid de canard, mais elle était vraiment magnifique.
Ouais, ah ouais.
C'est vrai que c'est une une belle personne. Il nous reste deux petites minutes. Qu'est-ce qu'on a oublié de dire ? C'est votre première expérience radio ?
Tout à fait.
Alors, ça va?
Ça va, super. Ça va bien.
Vous auriez pu rester une heure de plus.
Ça me paraissait long au départ, une heure et demie. Mais après, lorsqu'on est lancé à discuter, ça va. Puis bon, on est bien avec vous, Odile. Vous êtes très accueillante. Franchement, non, il y a une chaleur dans le studio. On est super bien. Bon. Vraiment. On est bien accueillis. On est bien. On est à l'aise. C'est important.
Maliem, en tout cas, merci d'être venue jusqu'ici. Ça vous a fait quand même un petit temps de trajet du Canet des
volontiers.
Morts. C'est combien d'heures de route?
Je crois que je vais mettre une heure et demie.
Une heure et demie.
Non, une heure pour rentrer. Une heure. Oui.
Oui, si vous mettez une heure et demie pour venir, une heure pour rentrer, il y a quelque chose.
Non, je vais mettre une heure.
Bon. Donc, on sait qu'on peut vous retrouver. Donc, vous exposez à Barcelone, c'est quand?
À Barcelone, c'est à cheval sur novembre-décembre.
Novembre-décembre.
Et après, janvier-février, au Canet des Morts.
Au Canet des Morts, à la médiathèque.
Voilà.
Donc, vous nous avez dit que du bien. Et puis, vous nous avez fait de la publicité pour Sisteron, Le Crayon Gris.
Oui.
Et puis, le Festival du Chien Rouge, ça n'a rien à voir. Mais c'est quelque chose qui a un bon succès depuis 2011, en juillet-août, au Canet des Morts. Maliem, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et puis, une prochaine fois peut-être. En tout cas, on se lâche pas. Je vais suivre sur Facebook encore vos œuvres. Et puis, félicitations encore. Moi, j'aime beaucoup.
Merci.
Ce personnage au grand pied, le nez dans les étoiles. On a envie de le suivre partout. Très bonne soirée.
À
bientôt.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Vuoi del tè, va anche a me, siamo soli io e te, che si fa? Usciamo. Che si fa? Dove si va? Come tanto tempo fa, questa sera cinema. Resta qui.